Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Sur Allegre FM 93.1 Dans la vie est un roman. Et ce matin, nous avons deux sujets, un reportage dans une galerie à la rue de Charonne et Jean-Michel Yeut qui vient nous parler de Jean Rouch. Donc pour commencer, nous allons entendre les voix de Marine Luspinski et de Mavado Charon qui expose à la rue de Charonne un reportage de Loïc Konansky.
En ce moment, jusqu'au 1er avril, deux excellentes expos à la galerie Art Factory, 27 rue de Charonne.
Commençons avec Marine. Durant son enfance parisienne, la peintre Marine Luspinski avait comme voisin Monsieur A. Quand elle jouait dans la cour avec ses copines, Monsieur A leur criait « Vos gueules les petites putes !» À la mort de Monsieur A, elle participe au vidage de l'appartement. Outre une belle collection de magazines porno, elle découvre quelques centaines de tirages photos couleurs.
Ce sont les photos que Monsieur A prenait de sa télévision, sur lesquelles passaient les séries, téléfilms, telenovelas de l'époque des années 90 à 2000. C'est une histoire peu lointaine, on avait autour de 15 ans et on habitait dans le 15e arrondissement. Et on avait une amie qui habitait une maison au fond d'un jardin assez sombre. Et le propriétaire de la maison et de l'immeuble entier qui donnait sur rue était un homme qui avait une particularité physique assez impressionnante puisqu'il avait une malformation, il avait des couilles énormes. Et quand on faisait trop de bruit dans le jardin, il nous gueulait à sa fenêtre, vos gueules les petites putes. Voilà, je pense que cette situation de vie n'était pas simple et je pense que est douloureuse, mais un mec qui te gueule à la fenêtre quand t'as 15 ans, vos gueules les petites putes, t'as une empathie limitée quoi, au départ.
Mais ça va pas, c'était pas traumatisant quand même.
Ah non.
Il photographiait sa télévision.
Ouais.
C'est quand même une démarche finalement warholienne de... de photographier une télévision avec des séries dedans.
Bah, en fait, ça,
c'est un artiste.
Bah, oui, je pense qu'il est clairement. Ça, on l'a découvert, disons, tout ce travail artistique qu'à sa mort. Mais surtout, il avait accroché au-dessus de son lit, dans son salon, visages pris à partir de sa télé, de comédienne des années 90 à 2000.
Mais en fait, on peut dire que finalement, tu prolonges sa démarche qu'il avait initiée.
À un moment donné, quand j'ai vu qu'il y avait certaines annotations sur les pochettes, genre il avait marqué cadrer la télé davantage. Moi, j'ai pas représenté les télés, très peu en fait. Mais lui, il avait une volonté de cadrer. On voyait la télé à l'intérieur, on voyait des scènes de ses différentes séries. On voyait des morceaux de son mur, des fois ses chiottes au loin.
Après la transmutation de l'œuvre télévisuelle en œuvre photographique opérée par Monsieur A, des années après, Maryse Luspinski transmute l'œuvre photographique de Monsieur A en œuvre picturale. Elle reprend les cadrages, mais les dialogues, les interjections changent. Une réalité sociale et relationnelle hyper esthésiée. « Tu me casses les couilles avec ton vin nature !»« Je présume que vous êtes hétéro. »« Avec tes goûts de chiottes, tu aurais dû épouser un Américain. »« Avec vous, les femmes, il n'y a pas de limite. » »« Elle a une tête à travailler dans le développement durable. »« On va droit dans le mur, mon amour. » Ferme ta gueule, on est d'accord avec toi. Moi, égoïste ? C'est peut-être le moment de se sortir les doigts du cul. Les amis, le boulot, la maladie, la mort, la routine, quoi. Continuons avec l'ésotérique transgressif Mavado Charon, l'artiste qui dessine sur les draps de sa grand-mère.
Je me suis inspiré d'un poème d'un poète mexicain contemporain sur la répression des Indiens par les conquistadors et notamment sur leurs mœurs sexuelles, parce que les conquistadors espagnols considéraient que les Indiens, les locaux, avaient des mœurs sodomites et qu'il fallait pour ça les punir. Donc ils les ont brûlés, torturés. C'est des images un peu fusionnelles de plusieurs influences. Des gravures, des estampes qui viennent de l'Europe du XVIIIe siècle, beaucoup d'écorchés, beaucoup des frontispice. Je me suis inspiré des codex. Là, c'est un mélange entre ces codex-là précolombiens et les gravures européennes du 18e et puis mon imaginaire qui, lui, est effectivement très trash, très homo-érotique. Et la fusion de tout ça, ça fait des œuvres qui sont assez... Voilà.
Ça sent un peu la gravure du Moyen-Âge, quand même, quelque part.
Oui, c'est vraiment très inspiré de ce travail-là, de gravure, effectivement. Et je me suis amusé avec un petit feutre pilote qu'on trouve dans les supermarchés à dessiner sur des vieux draps que j'avais récupérés chez mes grands-parents quand ils sont morts. En lin un peu grossier, ça donne un effet un peu de gravure.
Il y a d'autres ingrédients ?
Alors moi, en fait, en tant que Mavado Charon, ça fait une dizaine d'années que je fais des dessins porno-érotiques gays, homo-érotiques. Mais je viens aussi du monde de la BD, qui a aussi tout un côté, je pense, narratif.
Mavado, c'est ton vrai nom ? Et Charon, ça vient d'où, ça ?
Alors Charon, c'est la mythologie gréco-romaine. C'est le passeur qui emmenait les morts de l'autre côté du Styx. Donc c'est celui qui fait traverser les gens vers la mort sur son bateau.
Donc tu as un rapport avec la mort, en fait.
Ah bah après, moi, dans mes dessins, il y a ce côté homo-érotique, mais il y a le côté très morbide aussi. Et pendant longtemps, j'ai dessiné des grandes fresques, plein de personnages donc masculins qui s'étripaient les uns les autres tout en se baisant les uns les autres. Et j'aimais bien ce mélange des deux, de tous ces corps masculins qui baisaient et qui se tuaient en même temps. Et je trouvais ça très... c'était un peu ma marque de fabrique pendant très longtemps, donc c'est pour ça que j'avais décidé de m'appeler Charon.
C'est Eros et Thanatos, quoi.
Ah bah là, exactement, on est vraiment en plein dedans, là.
Maryse Luspinski et Mavado Charon sont à la galerie Arts Factory 27 rue de Charonne et ça vaut vraiment le coup. Jusqu'au 1er avril.
Et donc c'était un reportage de Loïc Konanski et maintenant nous allons parler de Jean Rouge. D'abord nous allons écouter un petit témoignage sonore. Voilà, nous sommes avec Jean-Michel Yeyette, qui en 68 poursuivait, comme on dit, des études universitaires de philosophie et d'histoire de l'art, et qui a découvert le cinéma de Jean Rouch et du coup a laissé tomber ses études universitaires pour suivre l'enseignement de Jean Rouch. Est-ce bien cela, Jean-Michel ?
Oui, il y a un peu de ça. Le cinéma de Jean Rouch, je le connaissais déjà. Jean Rouch, vraisemblablement, je l'avais déjà rencontré. Je serais incapable de dire à quelle époque j'ai vu certains de ses films, ni à quelle époque je l'ai rencontré. Il se fait que c'était en quelque sorte un ami de la famille, puisque ma tante était la monteuse qui avait monté, entre autres, Moi un noir, qui a fait une révolution dans le cinéma. Ils ont inventé ensemble, l'usage systématique du faux raccord, mais l'indifférence aux raccords académiques.
Donne le nom de ta tante, s'il te plaît.
Marie-Joseph Yeyette. Voilà. Donc, pour moi, ça faisait partie, il faisait partie d'un monde tout à fait familier. Quand j'ai commencé à voir ces films, je n'en sais rien, parce que beaucoup des films de lui que je préfère ont été faits quand j'avais 5 ou 6 ans, par exemple. Bon, je doute de les avoir vus à cet âge-là. Voilà. Alors, effectivement, c'est bien l'idée de commencer avec mai 68, parce que c'est en mai 68 que j'ai commencé à avoir des rapports un peu plus conséquents avec Jean Rouch. J'avais abandonné successivement des études de philosophie et des études d'histoire de l'art, et je m'étais inscrit au laboratoire audiovisuel de l'École pratique des hautes études, 5e section des sciences religieuses. Ce laboratoire audiovisuel était dirigé par Jean Rouch, qu'on ne voyait jamais. Les cours de Jean Rouch consistaient essentiellement en projection de films, les siens ou d'autres films. J'ai vu comme ça, par exemple, un très beau film, Desert People, de Ian Dunlop, un film australien, en long plan séquence fixe, où il se passe à peu près rien, en apparence, sur les aborigènes d'Australie. Voilà. Les cours de Rouch, donc, c'était des projections soit à la cinémathèque, soit à la salle de cinéma du Musée de l'Homme. Voilà, où il avait sa salle de montage, etc., etc. Ce qui m'a permis de voir un certain nombre de films de Jean Rouch avant qu'ils soient distribués, avant même qu'ils soient montés, notamment toute la série sur le Sigui que j'ai vue d'année en année. Voilà. Bon. Alors, au laboratoire audiovisuel, on avait un cours pratique. Ça, on n'en parle jamais de ces gens-là. Je voudrais en parler, c'est dédié cette émission à Roger Morillière et à Louis Boucher. Roger Morillière enseignait la prise de vue et Louis Boucher la prise de son. Il s'est passé en 68 une chose assez amusante, c'est que brusquement on apprend que c'est la révolution. Alors moi je me demandais, il y avait quand même très peu de signes réels qu'il y ait une révolution, et je m'étais demandé, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait quelque chose qui soit révolutionnaire. Bon. Je passe sur les détails, etc. Toujours est-il que nous sommes retrouvés à faire une assemblée générale, hein, dont j'ai été le président tout le temps, ça a duré plusieurs mois, hein, tout le temps que j'étais quasiment reconduit automatiquement jusqu'à ce que je sois mis en minorité par des gens que je prenais pour des maoïstes et qui étaient en fait des gens qu'on ne connaissait pas, qui sont venus du Parti communiste français. Ça mérite d'être dit. On s'est replié parce qu'il y avait les cours de Morillière avaient lieu dans une annexe du musée Guimet, les gardiens ont des vacances. On s'est replié dans un endroit tout à fait étonnant qui était l'American Center du boulevard Raspail. Cet American Center, il faut expliquer brièvement ce que c'était. C'était une sorte de surgeon tardif de Black Mountain. Black Mountain, c'était une sorte d'université libre privée américaine qui n'a existé que de 1933 à 1957. Alors là, nous sommes en 68. Et qui avait été... où les enseignants étaient des artistes célèbres. Les élèves sont la plupart devenus, cette école était influencée par les idées de John Dewey. Voilà. Alors, à titre, on enseignait là-bas John Cage, Merce Cunningham, Willem de Kooning, Buckminster Fuller, etc., etc. Voilà. Un jour, donc, j'étais à l'American Center et j'assistais à des projections lettristes de Maurice Lemaître. Et là-dessus, Rouch, c'est pour ça que je pense d'ailleurs que j'avais des contacts dans cette période avant ça, parce que comment pouvait-il savoir que j'étais là, hein. Rouch vient me chercher à une projection de film lettriste et me dit « Je tourne un film, il faut que tu viennes avec tes copains ». Voilà. Parce qu'on a une scène, c'est un film d'ethnographie parisienne. Il y a mes amis d'Amourezica, l'âme, etc., etc., qui sont les personnages principaux que tu connais. Bon, et donc ils font que c'est un peu les lettres persanes. Ils font des ethnologues à Paris. Voilà. Alors la scène. Alors moi j'étais emballé. Je me suis dit, connaissant Rouch, je me suis dit ça va être extraordinaire. On va pouvoir discuter des plans, improviser, discuter au jour le jour. Grande déception. Grande déception. La scène à laquelle j'avais participé était une scène dans une boîte de nuit antillaise qui s'appelait, je crois, La Cage, et qui était rue d'Odessa. On arrive, alors détail très amusant, M. Morillière, dont j'ai parlé, avait préparé des éclairages, etc. Rouch arrive, il enlève tous les éclairages. Bon. Et il commence à filmer, sans dire moteur ni rien du tout, etc., etc. Alors nous, mes copains, on danse, etc. À une table, il y a les héros. Quand j'ai vu les rushs, enfin quand j'ai vu comme ils filmaient déjà, j'étais absolument consterné. Ils n'observaient rien. J'ai vu tout de suite qu'ils n'observaient rien. Contrairement à des choses qu'il m'avait dit quand je lui avais demandé comment il tournait, etc. etc. Et là, j'ai compris que tout était emballé par lui et Damouré et l'âme, etc. Voilà. Donc ça a été une très très grande déception parce que j'ai vu que, de mon point de vue, il était en train de faire de la merde. Quand j'ai vu le résultat, je serais un peu moins sévère aujourd'hui, mais c'est quand même un film assez bête, assez niais. Bébête, quoi. C'est le côté, le grand critique
de quel film parle-t-il ?
Serge Danet, Petit à Petit. Le grand critique Serge Danet, celui qui a dit Jean Rouch, la plus belle voix du cinéma français, il y a des raisons, avait dit aussi dans son journal, avait dit aussi ce qui est exaspérant chez Rouch, c'est son côté boy scout. Voilà. Et là, on avait son côté boy scout et c'était, je pense, ça flinguait le film totalement. Voilà. Bon.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je pense que le Rouch est un cas très, très, très particulier. Il intervient, dans un monde, il faut savoir comment il a commencé à tourner en Afrique. Il était en Afrique pendant l'occupation, ingénieur des ponts et chaussées. Immédiatement, avec ses copains, au lieu de construire des ponts, etc., il crée une petite cellule de résistance. Et il est expulsé du Niger par l'administration de Pétain. Voilà. Après ça, il remonte laborieusement, il va traverser la France en faisant sauter les ponts, etc., etc., au lieu d'en construire. Bon, ça, je passe là-dessus. Pour passer à quelque chose de plus essentiel, à mon avis, quand Rouch commence à tourner dans un contexte colonial, il tourne parce que il rencontre Marcel Griaul, dont il connaît les films. Et les recherches, et Marcel Griaul, comme il ne sait pas quoi faire, Marcel Griaul lui dit, écoute, tu prends des notes, tu étudies, etc., etc.
Marcel Griaul, qui est un ethnologue.
Qui était un ethnologue très, très réputé, spécialiste des Dogons, au Mali. Et Griaul lui dit, écoute, je sais que t'aimes le cinéma, etc., t'as qu'à filmer. Griaul avait déjà fait des petits films, etc. Voilà. Et c'est comme ça que Rouch s'est trouvé. Il est allé aux puces en France, il est allé aux puces, il a acheté une Bell & Howell mécanique de reportage de guerre à Tourelle avec trois petits objectifs, un instrument que j'ai utilisé plusieurs fois. Trois minutes de pellicule, mais pas trois minutes de plan. C'est-à-dire qu'il faut la remonter à peu près toutes les 10 secondes, toutes les 15 secondes. Hein. Voilà. Donc, avec ça, il a tourné un certain nombre de films. Donc là, je vais quand même enchaîner sur l'invention de son bel faux raccord, ça c'est inévitable, sans ça on ne comprendra pas la suite. Il tourne ce qui va devenir le film très célèbre qui s'appelle Moins un noir, Trècheville, qui est le nom de la banlieue d'Abidjan. Il y a une scène qui va devenir exemplaire, Oumarou Ganda, le protagoniste de Moins Noir, qui est un docker qui a fait la guerre d'Indochine, raconte à un de ses amis la guerre d'Indochine en marchant le long d'un fleuve. Comme ça. Et alors, il fait les bruits, il émet de la mitraillette, il se couche par terre, etc. etc. Il n'y a pas de son. parce que enregistrer du son à l'époque, il fallait un camion entier, ce n'était pas possible. Bon. Arrivé dans la salle, ils ont décidé donc de post-synchroniser. Arrivé dans la salle de montage, ils savent pas quoi faire parce qu'ils ont des C-plans qui ne dépassent pas 15 secondes. Normalement, il faut faire ce qu'on appelle des plans de coupe pour raccorder les plans. Alors ils essayent, ma tante qui était sa monteuse essaye. La nuit, Jean Rouch vient, il enlève les plans. À la fin, ils discutent, ils se disent on monte comme ça. Il y a un trou, on s'en fout. Voilà. Bon, ça, c'est pour le montage. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un faux raccord. Dans leur esprit, ce n'était pas l'idée d'un faux raccord. C'était l'idée qu'il n'y a pas de règles quand on fait un raccord. Ça aura une influence absolument considérable, notamment sur la nouvelle vague. Deuxième invention, on peut dire, il faut post-synchroniser. Ils avaient un son témoin avec vaguement les dialogues. Ils convoquent à Paris, en auditorium, les acteurs pour post-synchroniser. Il n'y en a qu'un seul qui vient, c'est Oumarou Ganda. Alors là, il s'est passé une chose extraordinaire. En une prise, du moins c'est ce qu'a raconté Rouch, Oumarou Ganda double toutes les voix. Mais il ne se contente pas de les doubler. Tantôt, il dit, alors là, je lui dis, alors là, il me dit. Non, mais là, il n'a pas raison, etc. Alors, tu vas voir, là, on va rencontrer un tel. Et tout le film, ça fait comme ça. Déjà, le tournage du film était spécial, parce que, par exemple, Omar Uganda, Rouche et Omar Uganda décidaient, avant chaque scène, de ce qu'ils allaient tourner, de ce qui allait arriver dans l'histoire. Et puis, de temps en temps, Omar Uganda rencontrait quelqu'un qu'il connaissait. Donc, l'histoire dérivait. Et eux, ils continuaient. Et l'histoire se faisait comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une date historique. Bon, en réalité, tout ce système de Rouche, de faux raccords, etc., etc., il est bien antérieur. Il est bien antérieur. Moins Noir et ses justices est très célèbre pour ça. Mais il y a des films plus, je dirais, plus exemplaires dont on parlera. Mais ce dont je voudrais parler, d'abord, c'est qu'il y a le cinéma, quand Rouche a commencé à faire du cinéma dans les années 40, puis après dans les années 50, ses grands films dans les années 50, mais ils sont très difficiles à dater parce qu'en général, il les tournait sur des très longues durées, tous en même temps. C'est-à-dire que les scènes pouvaient se trouver dans un film ou dans un autre, selon que c'était un documentaire, un film de fiction, etc. Il y avait toujours un basculement de l'un à l'autre, aussi bien dans les documentaires, de ce qui était soi-disant un documentaire, dans ce qui était soi-disant un film de fiction. Ce qui est arrivé, donc le cinéma existait depuis pas mal de temps, mais je pense qu'on ne l'avait pas inventé. Il restait à inventer le cinéma. Personne n'avait inventé le cinéma. Il y avait de très très grands cinéastes, je ne sais pas, de Stroheim, bon, pour dire vraiment des gens qui dominent le cinéma mondial, Stroheim, Renoir, Mizoguchi. Ces gens ont fait, je dirais, en quelque sorte, du cinéma naïf. Le cinéma existe, ils tournent des films, ça va de soi. On met la caméra, on met les acteurs, etc. etc. Personne ne s'est interrogé avant Rouche et Godard sur la bizarrerie qu'il y a à faire des films, sur le rapport qu'il y a entre le fait de filmer, ce qui va arriver dans la caméra, et la modification que ça introduit dans la réalité elle-même. Or, si on regarde bien les films de Rouche, pratiquement, le sujet de presque tous ces films, c'est ça. C'est le rapport vicié, indirect, spécieux entre le film et la réalité. C'est-à-dire que le cinéma cesse d'être innocent. Et en cessant d'être innocent, il devient extrêmement frais parce qu'il montre ses artifices. Il montre qu'il y a un trucage, mais que le résultat de ce trucage est vrai. C'est-à-dire que ce qui a été provoqué par le fait d'être filmé. Les gens ne sont pas naturels. Quand il y a une caméra, personne n'est naturel. Et ça a déclenché une polémique. Par exemple, il y avait un grand ethnologue, Jean Guihard, qui travaillait en Océanie, qui disait « c'est le document direct, c'est le document direct ». Jean Guihard, dont j'ai vu certains des films, il filmait à distance pour avoir un document objectif. Et son commentaire était un documentaire du blanc sur des papous, autoritaire, qui détenait la vérité sur les sauvages. Rouche filme à 50 cm quelquefois, en grand angle, à proximité des gens. Vous ne pouvez pas filmer comme ça sans que la personne vous accepte. Pourquoi il est accepté ? Parce que les gens connaissaient son honnêteté et c'était un ami. Donc, à l'époque, on n'a pas dit truc, etc. Oui, il filme ses amis. Mais pour lui, c'était ça la vraie ethnographie. C'était filmer ses amis. Et éventuellement, on pouvait retourner la caméra sur les ethnologues. Ça arrive dans certains de ses films où on le voit lui-même, etc. En même temps, il est une présence constante. C'est-à-dire qu'il y a toujours la voix off de Jean Rouche qui est un personnage à part entière, qui n'est pas un commentaire à proprement parler, qui est un personnage. Il est toujours là, avec son commentaire qui est... Il y a même des films où on a l'impression que le commentaire est fait en direct. C'est très, très habile. Des cas, c'est assez marrant, par exemple, dans le Dama d'Ambara, on a l'impression que c'est fait en direct, alors que c'est un texte qui a été écrit plusieurs dizaines d'années auparavant par Marcel Griaul, et qui n'est pas de Jean Rouche. Et que Jean Rouche, avec sa voix extrêmement lyrique, avec une certaine emphase, un phrasé qui est très, 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 très particulier, donne l'impression que c'est dit du direct. Parce que tout devient du direct dans sa façon de filmer. Même le passé devient du direct, même des plans qui ont été tournés il y a 30 ans deviennent du direct. Et c'est une essence du cinéma d'être toujours au présent. C'est une chose qu'avait dit par la suite Jean-Luc Godard. Un film, c'est d'abord un documentaire sur les acteurs en train de jouer dans le film.
Je dirais qu'il a la voix d'Homère.
Oui,
il transforme tout en épopée.
Il transforme tout en épopée. Il est épique. Il y a un film où c'est très exemplaire, c'est La chasse au lion à l'arc, où il filme les chasseurs de lions. Les chasseurs de lions sont accompagnés de griots, de chanteurs de louanges. Les griots chantent sur un mode épique La chasse au lion. Et lui, il double le chant des griots, d'une certaine façon, en racontant ce qu'on voit.
Alors, pour ne pas le ramener à nous, il a une voix de griot.
Il a une voix de griot.
Parce que sinon, oui. C'est Homer, c'est comme...
Il a une voix de griot, c'est rythmé, c'est rythmé, c'est presque en vers, quoi. C'est un commentaire poétique.
Mais il pourrait filmer comme Moulet, quelqu'un qui fait la vaisselle, oui. Et le transformer en épopée.
Il l'a transformé en épopée, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc... Voyons. Voilà. Alors, il y a un film dont j'aimerais beaucoup parler parce que c'est un film qui pose beaucoup de, qui pose pas beaucoup de problèmes, qui est assez connu, qui est très connu, qui à l'époque a fait même scandale, qui a frisé l'interdiction, comme d'autres films de Rouche. C'est un film qui s'appelle La pyramide humaine. Alors, La pyramide humaine, si on lit des histoires du cinéma, on apprend que le mérite de Jean Rouche, c'est d'avoir donné la parole pour la première fois aux Africains. Bon, je pense qu'ils étaient parfaitement capables de se passer d'un Jean Rouche pour parler, surtout dans des cultures orales et bavardes. Hein. Bon. C'est pas entièrement faux ce qui est dit. On apprend aussi que La pyramide humaine est une tentative de sociologie cinématographique. Alors effectivement, c'est ça au départ. Au départ, il y a un prologue où on voit Jean Rouche dans une classe de lycée, une classe de première à Abidjan, avec des blancs et des noirs. Donc l'idée de Jean Rouche, il explique, voilà. Donc on n'a jamais mis des blancs et des noirs dans les mêmes... ou alors ils sont séparés dans la classe, etc. etc. Bon. Et on va faire un film sur le racisme. Alors, il y a des blancs qui sont racistes, il y en a peut-être qui ne le sont pas. Donc, c'est des blancs d'Afrique. Hein. C'est très important, c'est des blancs d'Afrique qui très souvent, leurs parents sont même nés en Afrique, etc. C'est des coloniaux. Quoi. Et les noirs sont des noirs instruits qui vont au lycée. Les blancs s'avèrent surtout des fêtards et les noirs, pour des raisons évidentes, beaucoup plus studieux, parce que s'ils sont capables d'avoir les diplômes des blancs, immédiatement, c'est comme s'ils changeaient de statut. Alors là, s'ensuit une conversation, parce que les élèves sont réticents. Et il faut se rappeler que Rouche leur a dit « Donc, il y en a qui joueront les blancs racistes. » Et là, on comprend, Rouche est en train de foutre la merde. Et il y a une fille, assez jolie, qui commence à dire « Mais on n'a rien de commun, même les évolués, ils sont quand même très, ils n'ont pas notre intelligence à nous. Nous, on est intelligents, les Africains ne sont pas intelligents. Ils ont des excuses, etc. Regardez comment ils vivent. Ils vivent très, très pauvrement. Nous, on ne pourrait pas vivre comme ça parce qu'on est des gens supérieurs et instruits. » Texto. Et là-dessus, elle donne un exemple de l'infériorité des Africains. Et elle se met, dans une espèce de dialecte, à raconter l'histoire d'un type qui raconte que sa femme est enceinte et qui va voir le médecin. Et alors, on croirait un dialogue de Rouche. Elle improvise, mais avec une inventivité absolument extraordinaire. Et là, on ne sait plus où on en est. On ne sait pas si la fille joue, si sincèrement, c'est premier degré, elle est très très con, mais comme elle vit en Afrique, elle est capable de parler comme les Africains, elle le doute, donc on ne sait pas du tout si on est dans la fiction. Si la fille se fout de la gueule du monde, si Rouche lui a demandé ou pas, on n'en sait rien. Oui.
Excuse-moi, il est 29, on va écouter la voix du maître. Il est d'usage de passer un morceau de musique à mi-chemin de l'émission pour annoncer qu'on est sur Aligre FM 93.1. Est-ce qu'on peut avoir le son?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Masque Komodo, poule de rocher. Picoreuse des graines volées par le renard. Masque Puroyana, jeune fille peule, au sein en fruits de baobab, cernée de coquillages coris. Masque Diomune, le guérisseur, Yongu Serou, le premier ancêtre mort, protecteur du défilé des masques, avec son chasse-mouche et son vase à médecine. Masque Satimba, la Yassidi, la jumelle du renard et du génie de l'eau, la sœur des masques, masque Kanaga, dont l'éclatante croix de Lorraine représente à la fois Dieu tournant le monde et le renard mort de soif, les quatre pattes en l'air. Enfin, le police, le masque policier, qui assure le service d'ordre et ferme le défilé des sirigués des maisons à étage. « rameurs en sidissaux en langue rituelle, ponctués par les cris brefs du renard triomphant ou les cris longs du renard mourant, tournant autour du rocher d'Ogol du Haut dans le sens de la création de Dieu, les nouveaux masques rentrent dans la caverne des masques. Ils y sont déposés, tout près des peintures qui les représentent depuis toujours. Et là, dans le secret de la caverne obscure, peintures anciennes et masques nouveaux communiquent leur force vitale, la force dangereuse du Dhamma qui, demain, enchantera les âmes des morts.
Aligre FM 93.1.
Le lendemain après-midi, le cri du renard retentit à Sungulu. À l'appel du tambour, les masques se préparent et les femmes se détournent de la chose dangereuse. En éclaireurs incertains, voici les petits masques de cavaliers peuls, poussant le cri du renard vivant. Vient à la rencontre les nouveaux masques d'Ogol du Bas. Un Mulono, un chef de masque, dit la devise des masques. Le masque ardent, ardent, ardent est le masque de Dieu. Le masque est venu de l'Est, à nous tous, à notre village. Masque, salut, que Dieu donne un haut souffle à tous les hommes. Un homme habile est allé en brousse. Il a vu un arbre mauvais. Il a pris de sa main un lézard. Il a égorgé le lézard sur le masque. Le masque est devenu puissant, puissant, ardent, 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 puissant, puissant, ardent, ardent. Il a frappé un coq sur le masque. Le masque est devenu puissant, puissant comme le soleil, puissant comme le feu, puissant comme la sagaie. Le masque en tête, le masque sur les yeux, que tous les hommes mettent le masque sur les bras, le masque sur les jambes, tenant en main le chasse-mouche, qu'ils prennent la route, qu'ils aillent au tambour, que les choses mauvaises, que les paroles mauvaises soient enterrées dans un trou. Masque sirigué, salut. Maître Mulono a pris sa hache en main. Il a pris le chemin, il est allé en brousse. Il a frappé un arbre avec sa hache. Il a bien agité les bras. L'arbre est tombé à terre. Il a pris un chiffon sur sa tête, il a posé le grand arbre dessus. Il a pris le chemin du village. Il a posé l'arbre à terre. Il l'a bien travaillé avec sa hache. Le lendemain, l'arbre est devenu masque.
Une pure merveille, oui, lyrique. Moi, je cherchais un autre terme, mais ça convient, oui.
Alors, je vais indiquer quand même de quoi il s'agit. Il s'agit d'un enregistrement tiré d'un film qui s'appelle le Dhamma d'Ambara. Un Dhamma, c'est une cérémonie de levée de deuil. Autrement dit, il s'agit de faire partir le mort pour qu'il ne hante pas le monde des vivants. Dans le film, à ce moment-là, ce qu'on voit, j'ai comprimé un peu, j'ai monté la bande. Sans ça, ça aurait été tout le film. Ce qu'on voit, c'est précisément ce qui est dit, c'est-à-dire c'est le défilé des masques. Et ce qui est raconté, on le voit en action. Voilà. Alors c'est très intéressant dans la démarche de Rouge, parce que très souvent, il a un cadre très très large, dans ces cas-là, on se demande qu'est-ce qu'il faut regarder. C'est le commentaire qui indique à la fois... c'est un peu comme les tableaux de la Renaissance, où il y a un personnage qui est quelque part, puis qui montre quelque chose et qui dit ce qu'il faut regarder. Et à partir d'où il faut lire l'image. Bon. Là, la voix de Rouche, elle dit, ce qu'il faut, dans une image très large, tout ce qu'il faut voir. Et elle donne le sens en même temps. Voilà, c'est ça. Alors, on va revenir quand même, parce que ça vaut la peine, au film La pyramide humaine. Donc, dans La pyramide humaine, si vous vous souvenez bien, il y a ces adolescents noirs et blancs qu'on essaie de faire communiquer ensemble. Alors, qu'est-ce qui va se passer en pratique? Alors, en pratique, ils vont essayer. Ils vont se promener, etc. C'est eux qui décident. Ils vont essayer. Et la caméra suit les uns et les autres, séparément, etc. Les voix off sont beaucoup utilisées. C'est-à-dire que très souvent, on voit, par exemple, un couple avec un noir, une blanche, ou l'inverse, etc. Avec un des deux à sa voix en monologue intérieur. Et commente
ou dit ce qu'elle pense en même temps, qui quelquefois dénonce l'image, hein, c'est, mais pas forcément. Quelquefois, il y a une exaltation. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gamins, ils vont se prendre au jeu. Et des histoires d'amour vont se constituer réellement, d'autant que Rouch a fait une chose extrêmement perfide. Il a lâché, il a ouvert la boîte de Pandore. Il a lâché une fille qui vient de Paris, qui je crois était la petite amie de Jean Rouch à ce moment-là, qui est Nadine Ballot, qui est toujours en vie, qui est une personne tout à fait charmante, une assez belle fille. Et Nadine Ballot est là un peu pour foutre la merde, c'est-à-dire se faire draguer, etc., etc. Ce qui, effectivement, va se produire. Le film va prendre une tournure très, très étrange, et notamment se conclure, à un moment donné, par une scène sur un bateau échoué. Et là, alors, je n'ai jamais pu le demander à Jean Rouch, parce qu'il était décédé à ce moment-là. J'ai demandé à ma tante, qui a monté ce film, il lui avait parlé de ça. Elle m'a dit il ne m'en a jamais parlé. Mais tout compte fait, je pense que tu as raison, parce qu'il était coutumier du genre d'allusions littéraires et savantes cryptées. Je pense que à partir d'un certain moment du déroulement du film, ce film de Jean Rouch, donc La pyramide humaine, est une transposition d'un film d'Albert Lewin en 1951 qui s'appelle Pandora, avec Ava Gardner. Et que Nadine Ballot joue le rôle d'Ava Gardner. Et elle porte malheur. C'est Pandore, quoi. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant au cours du film, donc il y a des histoires réelles qui se nouent. Et alors, on voit cette chose extraordinaire. Parce que, c'est-à-dire qu'on voit en direct ce qu'un grand écrivain français a décrit, la cristallisation. Voilà. On voit en direct que Stendhal, un siècle et demi ou deux siècles, je ne sais pas, avant, a décrit. Ça existe réellement. Parce qu'on avait des doutes sur Stendhal. Il a commencé comme ça avant d'écrire des romans, par faire la théorie, des théories sur l'amour dans De l'amour, voilà, etc. Et on le voit en vrai. Et on voit une sorte... Il y a une scène qui est absolument bouleversante où on voit, il y a un couple, un jeune Africain et Nadine. C'est très troublant. C'est une scène... je pense qu'ils l'ont mis en scène eux-mêmes. Alors, j'ai cru comprendre après, quand on voit à la fin du film, la projection du film et les réactions des acteurs qui n'ont pas supporté certainement, ont rejeté très violemment cette scène en trouvant qu'elle était obscène. Hein, et demandé sa suppression, ce que Rouch évidemment n'a pas fait. Lui, il était mort de rire dans la salle. Il y a une scène absolument bouleversante où on voit ce jeune Africain et Nadine dans une église en ruine. Dans l'église en ruine, il y a des espèces de saints qui ont l'air de fétiches, qui ressemblent à des fétiches, et ils jouent un simulacre de mariage devant les fétiches. Et à un moment donné, Nadine, qui a les cheveux longs, prend ses cheveux et les ramène devant son visage et n'est plus finalement qu'un masque, qu'un esprit. Elle entre dans le monde des esprits. Et c'est une scène absolument incroyable, mais incroyable. C'est... Voilà pour Pandora, pour la pyramide humaine. Alors, une autre chose importante, pourquoi j'ai choisi la pyramide humaine, c'est sur le plan formel. On voit, par exemple, d'un plan à l'autre, il y a toujours une rupture de cadre ou de sujet. Hein. Les passages d'une grosseur de plan à l'autre sont toujours extrêmes. Plan général, gros plan. Chaque plan... manifestement, est fait pour exister en lui-même, indépendamment de la place qu'il pourra prendre dans le montage. Et certains pourraient d'ailleurs très très bien se déplacer. La couleur est extrêmement saturée. On ne travaillait pas à ce moment-là la couleur... c'est le Kodachrome aussi qui faisait ça, mais pas seulement. Quoi. La voix off est très souvent utilisée en monologue intérieur. Des irruptions de fantastique. Tout ça... ça anticipe quelque chose qu'on a bien connu par la suite, qui est l'esthétique de Godard dans les années 62-63. Or, le film est tourné à la fin de 1957 et tout 58. C'est quelque chose... C'est dans ce sens-là aussi que Rouch et Godard ont inventé le cinéma, sinon le cinéma moderne. Voilà.
Et Godard rendait justice à Rouch.
Alors, là, c'est mon interprétation à moi. Les gens qui ont vu À bout de souffle, c'est-à-dire normalement tout cinéphile, se souviennent de Ginsberg sur les Champs-Élysées vendant le New York Herald Tribune. Le dernier plan de la pyramide humaine. À ma connaissance, personne n'a remarqué cela. Le dernier plan de la pyramide humaine, c'est deux couples domino, comme disent les racistes américains, blanc-noir, noir-blanc, hein, qui remontent les Champs-Élysées, en travelling arrière. On les voit comme ça. C'est le dernier plan. Or, je pense que ce plan, que le plan de Jean Seberg dans À bout de souffle, est un hommage à Godard.
Oui, et donc...
Ah, Jean Rouch. Est un hommage,
Godard, Godard voulait appeler son film Moins Blanc.
Et
en
Godard
hommage
voulait
appeler
son film Moins Blanc. Pendant tout le tournage, c'était voilà.
C'était le titre du travail.
Voilà, c'était le titre de travail. Et on l'a découragé parce que ça pouvait paraître pour une attitude raciste, ce qui n'était pas du tout le cas, évidemment. Voilà. Alors, il y a autre chose qui m'a intéressé, on en avait discuté avec Yves, Yves Tanré, il y a quelque temps. C'est. J'ai toujours, quand je vois les films de Rouch, surtout quand il y a sa voix off qui manifeste sa présence, c'est que le cinéma, et qu'il a une présence vraiment très, 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 très charismatique, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas s'en souvenir. Hein. Et quand on le voit et quand on l'a rencontré, on ne peut pas ne pas s'en souvenir, parce que c'est quelqu'un, mais ça j'en parlerai après, je me suis dit que finalement, et pour moi-même, avoir tourné des films avec des amis et où je joue moi-même, donc je peux me voir il y a 30 ans, et mes amis aussi, mon ami notamment François Robert Lloyd, et on se voit comme si on était mort. Mais on n'est pas mort, puisqu'on est vivant dans le film, que le cinéma est nécessairement au présent. Donc, je pense qu'une des fonctions, on pourrait dire... pas subconsciente, oui, peut-être, du cinéma, c'est que le cinéma, surtout le cinéma direct, comme ça, c'est le retour des morts. C'est la résurrection des morts. Il y a une présence magique, et que le cinéma est effectivement un instrument de magie. Voilà. C'est... Bon, je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà. Alors, il y a autre chose. Avec la voix, alors ça, c'est un concept dont je profite de l'émission pour le revendiquer. Parce qu'il est tellement brillant que je ne tiens pas à ce que quelqu'un se l'approprie. C'est Rouch a créé le cinéma parlé. Alors, il a créé le cinéma parlé, pas seulement parce qu'il a fait des films et qu'il y a de la parole dedans. Il a créé le cinéma parlé parce que pour tous les gens qu'il connaît, soit qu'on a vu des documentaires où on le voit parler, où il est interviewé, il y a des reportages sur lui de 2 heures. Hein. Il y a énormément de documents. Ou pour les gens qui l'ont rencontré, même une fois, ou les gens qui l'ont bien connu, Rouch est un improvisateur absolument extraordinaire. C'est-à-dire que Rouch, par exemple, il y a un document qui est très intéressant à voir, qui est sur un film de Rouch qui est assez mauvais, qui s'appelle Dionysos. Il y a un film sur le tournage de Dionysos. Et on voit Rouch en train de diriger. Et notamment, Rouch raconte ce qui va se passer. Il y a un autre film qui raconte où on voit Rouch avec ses producteurs italiens pour un film sur Turin qu'il ne tournera jamais. Et Rouch raconte l'histoire de Turin, etc. Ou bien, vous voyez Rouch et il vous raconte sa journée ou qu'il a rencontré quelqu'un, etc. Ou le film qu'il va tourner. Et vous voyez le film. À la limite, il n'y a plus besoin de le tourner. Il fait tout. Il fait les acteurs, il fait les commentaires, etc. etc.
C'est absolument... un griot.
Donc c'est un griot, et je pense, bon, il est l'inventeur du cinéma, le cinéma parlant existait, qui est une chose, somme toute, qui a été un moment catastrophique, parce qu'on n'a plus compris quelle était la fonction possible de la parole au cinéma, on a cru que ça consistait à filmer du théâtre. Et il a inventé également un cinéma sans images, qui provoque des images chez l'auditeur, qui est le cinéma parlé. Tout le monde n'est pas capable de faire du cinéma parlé, c'est pratiquement peut-être Glauber Rocha qui était un fan de Jean Rouch, le grand cinéaste brésilien, mais aussi parce que le Brésil est une culture bavarde, voilà, etc. C'est... Et puis des gens comme Umaru Ganda lui-même. Umaru Ganda est devenu, alors il faut savoir, le protagoniste de Moins un Noir, est devenu un des premiers cinéastes africains et un très 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 grand cinéaste qui a fait, je crois, 4 films. Tous les 4 ont été interdits dans son pays, d'ailleurs, parce qu'il a fait des films contre le maraboutisme, etc. Le premier, qui s'appelle Cabascabo, c'est l'histoire de Moins un Noir, mais racontée en plan séquence et en noir et blanc, en plan séquence fixe, par Umaru Ganda. Voilà. C'est l'histoire vraie d'Umaru Ganda de Moins un Noir. Voilà.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc, oui, tu disais...
J'avais peur qu'on, de manquer de temps, mais
non,
je vois
tu
que...
Non, tu en as, oui. Et donc, peut-être parler de l'étendue de l'œuvre de Rouge, qui est là aussi, hein, quand je prenais Homère, on a effectivement une épopée homérique. Et je ne sais pas, on pense à Rouge, je vois la chasse au rhinocéros, la chasse au lion, mais je vois...
À l'hippopotame.
Je vois, évidemment, les maîtres fous qui ont changé ma vie quand je l'ai vu.
Et tu ne crois pas, c'est bien dire. Il y a un film épique au sens le plus littéral du terme, ce qui s'appelle Babatou, les trois conseils. C'est un film qui raconte l'histoire de l'Empire Sunrai. C'est un film à costume. Et alors, quand je l'ai vu, parce qu'il est co-signé par Mustapha Alassane, qui est un grand cinéaste africain, qui a d'abord été un collaborateur de Jean Rouch et un ami de Jean Rouch. Et alors, j'ai demandé à... Comment s'appelle-t-il l'Italien que tu avais interviewé, tu te rappelles, sur Jean Rouch?
Je me souviens plus de son nom, mais qui occupait du centenaire de sa naissance.
C'est ça, s'occupait du centenaire de sa naissance. Et j'en ai parlé avec lui. Et je lui ai dit, mais c'est pas... Il y a une telle rigueur dans ce film à costume, c'est pas possible. C'est Mustapha qui l'a tourné. Il m'a dit, non, je demandais à Mustapha Alassane, c'est entièrement Rouch. Mustapha Alassane est le scénariste. Voilà. Pour qu'il y ait de l'ordre quand même, etc. Mais donc Rouch est parfaitement, même assez tardivement, même, etc., t'es parfaitement capable de faire ce qu'il... S'il était accompagné, il n'avait pas de sens critique, je dirais. S'il était accompagné de quelqu'un qui avait ce sens critique pour lui, il faisait des films parfaitement rigoureux. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'avais choisi... La pyramide humaine tout à l'heure. Parce que quand j'ai constaté au générique que c'est ma tante qui l'avait monté, je sais d'où vient la rigueur. Elle a dû jeter les trois quarts du film. Elle a dû raccourcir les plans, etc., etc., et ne pas chercher à faire plaisir à Jean Rouch. Et à ce moment-là, elle a certainement augmenté la puissance du film. Ouais.
Il faut voir Rouch comme un fleuve, en fait, avec
des tas d'éléments
qui ont la même valeur, enfin, qui sont en mouvement
tout
tous. Et le dernier des assistants est aussi important.
Absolument.
Tout le monde est important.
Un désir de Jean Rouch, qu'il a dit dans les interviews, moi, il me l'avait dit aussi, il dit, après ma mort, il faut continuer mes films, il faut continuer mon cinéma. Et pour lui, c'est tous ces films sont une seule chose. C'est une énorme toile d'araignée. Alors, il a eu des successeurs qui sont des disciples, c'est-à-dire que c'est pas très intéressant. C'est-à-dire il y a le cinéma ethnographique par Jean Rouch, puis il y a le cinéma ethnographique pas par Jean Rouch, qui est, à mon avis, une régression lamentable, pas dans tous les cas, hein, mais dans beaucoup de cas.
Mais le côté aventureux n'y est plus, évidemment. Techniquement, par exemple, chaque plan était une aventure. Enfin, alors, tout était compliqué.
Pour un peu conclure, je me rappelle comment je suis tombé amoureux de ce cinéma. Je connaissais, j'avais vu déjà un certain nombre de films, etc. Mais il se passe un jour, et j'avais dans l'idée, un jour, je rêvais d'être cinéaste, voilà. Et un jour, je vais voir un film, c'est rue Racine, rue l'école de médecine au cinéma Racine, un film de Jean Rouch qui est assez peu connu, qui s'appelle Monsieur Albert Prophète. Le titre, semblait déjà absolument extraordinaire, voilà. Donc c'était effectivement un film sur un prophète appartenant à une secte de plus ou moins millénariste, etc., etc. Et où on voit une dame qui va très mal, qui est soignée, qui est une schizophrène très, très certainement. Elle est soignée en étant enchaînée dans une espèce de terrain vague, etc., etc. Film très très dur pour beaucoup de gens, c'est pour ça qu'on ne le voit plus, je pense. Et je vois ce film et je comprends que Rouch avait ça tout seul. Parce que quand j'allais au cinéma, je voyais des films, j'imaginais même pas qu'il y avait le studio, la caméra, etc. Je me disais, on met la caméra, on appuie sur le bouton, et hop, voilà. Bon, et ça se passe tout seul. Ce que Godard a essayé de réaliser avec quand même des moyens beaucoup plus considérables par la suite. C'est-à-dire qu'il a pas seulement réduit l'équipe, il a introduit la mise en scène, il a fait du scénario un aide-mémoire. Et le film se réalise réellement au moment du tournage, avec juste les moyens nécessaires, quoi. Et là, je me dis, mais c'est formidable, on peut faire... C'est ça qui m'intéresse, ce type est formidable. Il n'y a besoin de personne, on fait tout. On fait tout, et le cinéma, c'est ça, voilà. Et j'ai eu l'occasion de faire ça, alors en vidéo, bien des années plus tard, 30, 40 ans, 50 ans plus tard, je ne sais pas, voire pire. Et ça marche. Et ça marche. Et je compte bien continuer, d'ailleurs. Et je compte, d'ailleurs, prendre la suite de son film, comment ça s'appelle, Chronique d'un été, qui est un film sur Paris. Et je compte le commencer dans les mois qui viennent, voilà, avec les caméras... 4K et 6K, etc., qui ressemblent à des petits appareils photographiques et qu'on peut... voilà. Et
le film avec Edgar Morin,
oui,
c'est lequel?
Chronique d'un été.
C'est celui-là.
C'est Chronique d'un été.
Et toi qui es un indigène qui a grandi ici, ça fait quel effet comme souvenir
alors,
historique?
J'ai la réaction.
Ces jeunes gens bien habillés.
J'ai la réaction qu'a eu, par exemple, notre ami Chiguenebou Gonzalves quand il a vu le film. Il a cru que c'était fait juste avant 68. Je lui dis non, c'est en 59-60. C'est août 60, si tu veux, Chronique d'un été. Et je pense qu'un spectateur moderne qui a connu mai 68 pense que c'est un film qui annonce mai 68. Il n'y a rien, mais il y a une ambiance. Il y a une ambiance où on sent qu'il y a quelque chose d'intolérable. Et quelque chose d'intolérable, les gens vivent pas bien. Alors le point de départ est très très crétin. C'est un point de départ sociologique, alors où Edgar Morin voulait faire une enquête sur le bonheur. Et alors ça commence, il y a des jeunes gens qui avec des micros, ils font des micro trottoirs, est-ce que vous êtes heureux, etc. Personne n'est capable de répondre à des questions comme ça. Mais c'est intéressant parce que ça date l'époque. Le style, par exemple, les gens parlent très bien. C'est pareil dans la pyramide humaine. On voit tous les gens s'expriment dans un français absolument extraordinaire. Un peu artificiel, parce qu'ils savent qu'ils jouent, ils surjouent légèrement le jeu, tu vois, la diction, tu vois. Et ça donne aussi un cachet, ce qu'on appelait la fausseté de la nouvelle vague, qui est, avec le recul, c'est le ton juste. C'est les autres films qui sonnent faux, avec le recul. Voilà. Et Chronique d'un été, y a toujours cette même chose, c'est-à-dire que quand les gens se prennent au jeu, ça devient de la fiction immédiatement, voilà.
On retrouve ce qu'on va retrouver Chantal Goya dans un film de Godard, par exemple.
Oui.
C'est exactement la
même
tonalité.
Tout à fait, oui, tout à fait.
C'est à la fois joué, mais dans ce jeu, on sent toute l'éducation qu'ont eu les gens. On voit leur arrière-fond sociologique,
exactement. Exactement.
On voit énormément de choses, il y a une profondeur.
Et ce qui est très
champ.
Intéressant, c'est que ce n'est pas une enquête sociologique. Par exemple, comment s'appelait-il Bertrand Blier avait fait Hitler connaît pas. Je sais pas si voilà. Alors, il avait pris des spécimens, des cas types. Ce ne sont pas des cas types. Chez Rouge, c'est toujours des individus. Il n'y a jamais... C'est justement, sa démarche n'est jamais celle d'un sociologue, paradoxalement. Edgar Morin était très ouvert à ça. Et Rouge a joué une sorte de mauvais tour à Edgar Morin, parce que Rouge, ce qui l'intéressait, c'est de faire un film de fiction. Quand ça ne vire pas à la fiction, ça l'emmerde. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Edgar Morin ne s'est pas rendu compte. Edgar Morin est filmé. Et du coup, il devient un sale type dans le film. C'est un monsieur tout à fait charmant et très sympathique et très brillant et très intelligent. C'est une des rares personnes fréquentables encore à l'heure actuelle. Il est 105 ans, je ne sais plus combien. Voilà, c'est... Et Chronique d'un été, c'est ça. Et la démarche de Rouge, c'est ça. Il n'y a que des cas individuels.
Et donc, oui, il y a cette espèce de...
C'est le multiple contre l'un.
Il permet à chacun de se mettre en scène, en fait.
Tout à fait.
Et donc, là aussi...
Chronique d'un été est formidable, parce qu'on voit un con dedans. C'est Régis Debray.
Oui.
Il y a une scène... Alors, c'est pour ça que tu sais que ma tante a refusé de monter le film à cause de ça. Il y a, comment elle s'appelle, la future épouse de Joris Evans. Comment s'appelle-t-elle?
Ah oui,
très célèbre.
Qui est très bien, qui signe tous les films avec lui.
C'est ça.
Qui est très brillante.
Qui est morte très, très récemment.
Ouais.
Elle a un numéro sur le poignet, à l'intérieur du poignet. Tout le monde comprend qu'elle était petite fille dans les camps de concentration. Et là, il y a une scène où Régis Debray, qui fait vraiment le jeu, qui est tout jeune, un tout jeune gauchiste, chieur, voilà, dit, l'accuse d'exhiber ça et d'être exhibitionniste et snob. Tu vois.
C'est monstrueux.
C'est une honte.
Ouais, c'est monstrueux.
Faut flinguer ce mec, tu vois. Bon. C'est pour ça que Marie-Joseph a refusé. Elle dit tu me laisses couper le plan. Et Rouche, évidemment, bon, il adore ce genre de choses. Il s'est dit le petit con. Je pensais qu'il n'est pas méchant. Je pense qu'il n'a pas pensé le petit con, mais c'est ça que ça voulait dire. Quoi. Qu'il assume sa connerie. Quoi.
C'est vraiment une question qui est
obscène.
Je ne serais
pas. C'est consternant. C'est. Autrement, effectivement, c'est assez marrant de voir les dates, tu vois. Maître Fou, 54. Moins Noir, 59. La Pyrénée de 59. Ça sort en 59. Mais ça fait en 47-48, tu vois. Chronique d'un été, 61. C'est tourné en 60. La Punition, 62. La Punition, je crois que le tournage a été... La Punition aussi, un film extraordinaire. Alors, c'est Nadine Ballot, dont on a déjà parlé, qui est lâchée au Luxembourg. Elle a été chassée de l'école. Ça, c'est une fiction. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle sait qu'elle doit rencontrer des gens, mais elle ne sait pas qui. Et elle rencontre des gens qui vont la draguer, etc., etc. Et puis, alors d'abord, elle est très, très réticente. Puis finalement, elle va chez un de ses mecs. Et on sent jamais... Elle n'arrive pas, elle ne joue pas. Et tout à la fin du film... Il se passe un miracle, elle se décontracte parce que le type arrive à la décontracter, il est marrant, etc., etc. Et on pourrait dire le film que souhaitait Rouge commence, mais tout à la fin. Comme la prise de possession, Tourou et Bitti, qui a une prise de possession qui a lieu en fin de plan séquence parce que les possédés qui ne sont pas possédés se sentent une dette vis-à-vis de Rouge et que ça déclenche la transe.
Avant que j'oublie, voilà. Je remercie les techniciens Kumba Falcast et Enrico Mastro Giovanni pour leur travail de l'autre côté de la vitre. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et je crois qu'on va arrêter là. On va passer l'antenne à Cause Commune, ou bien tu peux encore conclure. Je pense qu'on a encore une minute. Si tu veux dire quelque chose de fondamental, tu as une minute.
Non, il reste 3-4 minutes. Mais j'ai rien à dire.
On va passer le générique de fin. Alors, merci à vous et à la semaine prochaine. C'était La vie est un roman sur Aligre FM 93.1.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.